Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci à toutes et tous de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h à suivre. Eva Rock pour son zapping du lendemain tout en paillettes et Bertrand Chameroy pour son écran de veille présidentiel. Notre invité culture, l'écrivain Jean Tellet pour sa biographie du rebelle Charles Baudelaire, le premier punk sur Terre, c'est lui qui le dit. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu de Baudelaire, non, de Tellet. Et puis dans les indispensables, un livre sur un inventeur qui est devenu un serial killer. C'est Nicolas Caro qui nous racontera ça. Et une fiction anglaise pleine d'humour noir avec Eva Rock. Bonjour justement Eva, je parlais de vous.
Bah oui, merci Philippe, bonjour à tous.
Bienvenue, bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour.
Comme tous les jours Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille. Je pose la question rituelle, même si j'ai ma petite idée, d'autant que je l'ai annoncé à 9h05.
Oui.
Qu'avez-vous regardé hier?
3, 2, 1, bonne année. Et la santé surtout, hein. Et 2020, c'est 20 sur 20, hein. Ah, qu'est-ce qu'on a pu dire comme connerie le 31 avec deux verres dans le nez.
C'est vrai, 20, c'est 20 sur 20, nul.
Hier, j'ai évidemment suivi l'interview d'Emmanuel Macron. Mais avant, j'ai regardé la chaîne Astro Center. C'est une chaîne de voyance en direct, canal 195 de certaines box. Elle existe vraiment. Mais hier, elle était exceptionnellement diffusée sur toutes les chaînes toute la journée.
Le chef de l'État devrait annoncer ce soir de nouvelles mesures.
Les hypothèses, les pistes, on les connaît évidemment.
Le président de la République devrait, selon toute vraisemblance, annoncer la mise en place d'un couvre-feu.
L'état d'urgence sanitaire qui pourrait revenir.
Une étape avant le reconfinement, j'espère me tromper.
Super les gars, merci pour les spoilers. Zéro suspense. Ah, j'aimerais pas me faire un ciné avec une chaîne info. Hein. Vous imaginez aller voir Sixième Sens avec BFM ou CNews? Tu vas voir, en fait, Bruce Willis, il est mort depuis le début, c'est pour ça que le gosse le voit. Mais tain, le film n'a pas commencé, t'es lourd. Une interview présidentielle prévue à 19h55, mais comme d'hab, les chaînes info ont déclenché les hostilités très tôt pour s'adonner à leur sport préféré, le comblage. Parmi les techniques pour meubler, il y a la classique, dire des phrases conçues avec des mots.
Je crois que le plus important dans l'intervention présidentielle, ça va être la parole du président.
Et ce qu'il faut retenir de cette phrase, c'est ce qu'on doit retenir de cette phrase. Mais la meilleure technique pour gagner du temps,
Philippe,
c'est vraiment ma technique préférée pour gagner du temps, c'est celle d'Arlette Chabot. Sur LCI, elle a décidé de parler en 33 tours au ralenti.
Emmanuel Macron osera-t-il imposer des couvre-feux dans les villes touchées par la seconde vague de l'épidémie?
Le génie l'a sauté. On n'a rien truqué à part la fin, c'était le son, la vitesse normale. Mais c'est malin, hein, puisqu'en parlant très lentement, on arrive plus vite à 20h et donc aux annonces d'Emmanuel Macron, plus de fêtes, enfin de parties, plus de resto après 21h, bref, une vie de retraité, quoi. Mais des retraités qui bossent, c'est un concept. Car on peut maintenir une vie sociale, mais au travail, et on peut continuer à recevoir des amis, mais 6 maximum. Une règle qui va vous obliger à vous poser les bonnes questions et faire des choix. Qui sont vos vrais amis? Il entre directement à la première place du top 6. C'est Hervé, sa quiche au saumon n'était pas dingue la dernière fois, mais son imitation de Mitterrand en fin de repas met l'ambiance. Et en plus, il vous a filé ses codes Netflix. Elle perd 4 places cette semaine, c'est Muriel. Fan des 3 cafés gourmands, elle arrive toujours les mains vides. Et ses histoires tombent à plat, elle est donc considérée comme contact inutile et sort du classement. Ah, ça va être sympa les petits clous. Allez, avant de filer, petit conseil aux animateurs télé qui nous écoutent. Si d'aventure Philippe Vandel vous interroge sur la tôle d'audience de votre dernière émission, réutilisez la formule du président sur Stop Covid et ses 493 alertes.
Alors, je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché.
Voilà. Nuance. Faudra penser à la ressortir celle-ci. Allez, comme dirait Gilles Boulot, un soir d'octobre pluvieux après 3/4 d'heure d'annonces plombantes.
Très bonne soirée à tous.
C'est ça.
Le très bonne soirée, c'était vraiment celui de Gilles Boulot hier soir.
Tout à fait.
Oh, on a bien ri, merci beaucoup. Et puis c'était très, 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 comme toujours, finement observé. Eva, comme tous les jours, vous êtes penchée, vous, sur les programmes du soir.
Ah oui, c'est beaucoup moins rigolo, vous allez voir.
Ah oui, hein. C'est pas une très bonne soirée ce soir.
C'est un peu tristouné.
Ah, ouais. C'est quoi le thème de votre zapping du lendemain?
Les feux de la rampe.
Ah.
Pourtant, a priori, on se dit, voilà, il va y avoir plein de paillettes. Mais alors, les paillettes, des fois, elles ne sont pas très lumineuses. Pendant des décennies, par exemple, Paul Finchley, a vécu les projecteurs braqués sur lui. Avec Carl, il formait un duo d'humoristes ultra populaires au Royaume-Uni. Les deux hommes ont vieilli. Paul continue d'animer un jeu à la télé. C'est une célébrité. Jusqu'au jour où la police sonne chez lui, il est accusé de viol, de plusieurs viols. Explication avec sa femme, son soutien de toujours.
Le nombre de fois où tu t'es pointé à la maison avec l'odeur d'une autre femme, et je ne t'ai rien dit. Cette fois, ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait avant. Je ne peux pas. Tu comprends ce que je te dis?
S'il te plaît, Marie,
Je te répète que je préférerais que tu t'allonges ailleurs que sur le lit de notre chambre à coucher. Pas aujourd'hui.
Alors, victime de sa célébrité ou réel violeur, la suite, vous la découvrirez dans l'excellente série Monstre Sacré, qui est diffusée sur Arte, avec notamment la prestation éblouissante de Robbie Coltrane dans le rôle principal. Série britannique très intéressante, car elle a été réalisée dans un contexte particulier. Les Anglais découvraient que Jimmy Savile, star de la télé, était un prédateur sexuel. La série y fait d'ailleurs allusion à plusieurs reprises. Eux aussi ont parfois souffert de prédateurs sexuels, de violences au sein de la famille. France 3 diffuse un documentaire choc intitulé « Relève-toi ». Pendant 7 mois, le réalisateur Frédéric Brunkel a suivi des jeunes victimes de violences qui ont accepté d'intégrer un programme de l'association L'Envol. L'objectif, en fait, c'est de les pousser à retrouver confiance en eux à travers des ateliers artistiques et la préparation d'un spectacle. Les feux de la rampe, donc, en guise de thérapie. Alors, les débuts sont très difficiles. Les jeunes refusent de chanter, de danser. Et donc, coup de gueule d'une des animatrices.
Moi, je refuse d'entendre quiconque dire « Je suis née dans la misère, je resterai dans la misère ». La résilience, c'est faire de ses faiblesses des forces. Transformer sa souffrance pour pouvoir l'utiliser pour être plus fort. Donc, pour ça, on se met au boulot à fond. D'accord ?
Et vous allez le voir, peu à peu, ces gamins se détendent, ils acceptent leur corps, ils acceptent surtout de parler de leur histoire. Alors souvent, c'est par bribes. Et écoutez bien la scène qui suit. Ils jouent une scène du spectacle à partir de phrases entendues quand ils étaient enfants.
Tu m'étonnes que t'as pas de pote et que tu parcelais, t'as de ta gueule.
Tu sais pas ce que c'est ?
Tu finiras en psychiatrie.
Ça monte. Continuez.
C'est un coup doux.
Je veux que vous alliez jusqu'à hurler ces trucs.
Enculé !
Connard ! Crève ! Espèce de grosse pute ! Suicide de mortel !
Un documentaire très dur, je préfère vous dire, voilà, mais parcouru par une petite lumière qui laisse penser que tout est possible et que ces 7 mois sont plus que la fabrication d'un spectacle, mais plutôt une forme de réparation personnelle. Enfin, troisième programme, eux aussi étaient sous les feux de la rampe. C'était le 28 juin dernier, mais personne pour les applaudir, pour apprécier et vivre leur musique dans le Théâtre Antique de Vienne. Raison sanitaire oblige, le joueur de cora malien, Balaké Sissoko, et le violoncelliste français Vincent Segal ont joué seuls sur scène. Concert intime, sublime, sous un ciel étoilé, retransmis ce soir sur Mezzo. Rien de mieux pour apaiser les âmes. Alors je récapitule, la série Monstre Sacré est à voir sur Arte à 20h50, le documentaire Choc, Relève-toi sur France 3 à 23h25, et la musique de Balaké Sissoko et Vincent Segal, c'est sur Mezzo à 20h30.
Merci beaucoup Eva Rock, merci Bertrand Chameroy, à demain pour tous les deux. Dans un instant, notre invité, ce sera l'écrivain Jean Tellet.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour, bonjour Jean Tellet.
Bonjour Philippe.
Vous êtes romancier, mais comme on est une émission média, je rappelle que dans une autre vie, vous avez été chroniqueur télé, notamment dans l'Assiette Anglaise ou nulle part ailleurs. C'était ici, dans ces locaux. Vous êtes fait une spécialité des romans historiques. Je vais citer le Montespan qui a dépassé les 500 000 ventes, mais également Auverlaine ou Mangel, si vous voulez, ou Charlie Neuf. Il y a aussi Darling, qui est devenu un film avec Guillaume Canet, ou encore Le Magasin des Suicides, qui est devenu un film d'animation signé Patrice Lecomte. Mais là, vous venez de publier, c'est votre actualité, une autre biographie, à moins que ce soit un roman historique, Crénom Baudelaire, point d'exclamation, pardon, c'est chez Mialet Barreau Éditeur. Pourquoi Baudelaire ?
Parce que j'avais déjà écrit sur Verlaine, sur Rimbaud, Verlaine et François Villon, et puis... Avant de terminer ma vie, j'avais envie de finir sur l'Everest de la poésie, décrocher la queue du Mickey, et c'est Baudelaire, quoi, parce que Baudelaire, ça, c'est vraiment le poète. Si on doit lire un recueil de bande dessinée, c'est Les Fleurs du... De bande dessinée. de poésie, c'est Les Fleurs du Mal.
Jean Bondy, vous venez de dire, pourquoi vous pensez déjà à terminer votre vie ?
Oh ben parce que j'ai 67 ans, donc ça va finir par s'arrêter, quoi. Oui, bien sûr, et puis c'est pas grave.
La question de base, qu'est-ce que vous nous apprenez que l'on ne savait pas sur Baudelaire, ou alors, de manière différente, quel nouvel éclairage vous a apporté Jean Tellet ?
Eh bien, presque tout, je pense, parce que Baudelaire, je dis souvent qu'il est illustre et inconnu. Presque tout le monde a entendu le nom de Charles Baudelaire.
Bien sûr.
Presque tout le monde a au moins entendu le titre Les Fleurs du Mal. On a appris à l'école, l'albatros, des trucs comme ça. Mais je m'amusais, moi, à poser des questions à des gens dits cultivés. Qu'est-ce que tu sais de la vie de Baudelaire ? Et il savait presque que dalle.
Alors moi, j'avoue, j'ai découvert quasiment tout.
Ah bah voyez, ouais.
Et pourtant, je pensais connaître. Oui, et j'aurais dit, oui, ça va, je connais. Non, pas du tout. Alors, je dois dire que c'est écrit comme du gentelet. Je veux dire un mot du style. Quand vous racontez l'adolescence de Baudelaire, c'est son adolescence, vous écrivez comme un ado. Vous racontez une anecdote. Il y a un dîner avec Caroline. Caroline, c'est sa maman. Et le beau-père, qui est militaire. Ils sont avec des amis, eux, militaires également. Je vous cite, et là, Charles, il a une vingtaine d'années. Il arrive. Et là, je cite gentelet. Soudain, une porte s'ouvre et Charles apparaît. À droite de Caroline, le beau-père tire de son gousset une montre dont le tic-tac semble demander « T'as vu l'heure ?» Et là, vous écrivez « De cela, le beau-fils s'en branle ».
Ouais.
On n'écrit pas ça dans une biographie.
Mais ce n'est pas une biographie, c'est un roman. Et puis, j'écris ce que je veux.
Vous avez compris ce que je veux dire.
Et puis,
on connaissait l'autobiographie d'Henri Troyat. Il y a des noms prestigieux que vous mettez d'ailleurs. Henri Troyat, il n'écrit pas qu'on s'en branle.
Toutes les biographies que j'ai lues et tout, pour moi, ont été indispensables, parce que sinon, je n'aurais pas pu écrire le livre. Mais c'est très scolaire. C'est comme les livres des Fleurs du Mal. Toutes les notes qu'il y a pour les étudiants, c'est très scolaire et très casse-pied. Et moi, j'avais envie de faire un truc vivant.
Alors, hasard de la programmation, hier, dans Culture Média, nous recevions Philippe Gueluc. Hasard.
J'ai entendu.
Il se trouve qu'il a lu votre livre et il avait quelque chose à vous dire, Jean Telet.
Bonjour, Jean Telet, c'est Philippe Gueluc. J'ai lu ton livre et je trouve que, une fois de plus, tu as pondu un chef-d'œuvre. C'est puissant, c'est bien écrit, dans une langue chatoyante, érudite, mais dans laquelle tu arrives à glisser des expressions modernes. Tu fais un grand écart entre la modernité et l'histoire. J'ai été pris de la première à la dernière page. C'est un de tes très grands livres. Bravo mon grand. Et quand je dis mon grand, il mesure 2,10 m. Hein. J'avais une question à te poser. Est-ce qu'on arrive à faire un livre comme ça sur quelqu'un d'aussi détestable? Est-ce qu'on n'est pas obligé d'aimer le héros dont on va raconter l'histoire? Et pourtant, Baudelaire est une ordure. Explique-moi ça.
Très bonne question.
Il a bien raison. C'est vrai que moi, j'ai longtemps hésité à écrire ce livre parce que Baudelaire est détestable, mais odieux avec tout le monde, et d'une misogynie de dingue.
On va parler des femmes dans une autre partie de l'émission.
Je passais mon temps à toujours dire, en tout cas, je n'écrirai jamais un livre sur Baudelaire. Parce que je ne l'aime pas, et que quand j'écris un roman, j'ai besoin d'aimer le personnage.
Et alors
effectivement, comme dit Philippe, au fur et à mesure où j'avançais dans le livre, au fur et à mesure d'un amoncellement de frasques insupportables et tout, on finit par le trouver touchant, émouvant, avoir de l'empathie pour Baudelaire, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un type très malheureux qui a eu un chagrin d'enfance dont il ne s'est jamais remis. C'est aussi simple que ça, la vie de Baudelaire.
On parlera de ce chagrin. Vous restez avec nous, Jean Telet, et il y a Hélène Manarino qui arrive pour votre portrait inattendu. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Jean Telet, qui publie Crénom Baudelaire, c'est chez Mialet Barreau Éditeur. Hors antenne, vous m'avez dit que vous avez écouté l'émission d'hier avec Philippe Gueluc.
Ouais, ouais.
Donc vous savez de quelle manière Hélène Manarino opère.
Ouais.
Bonjour Hélène.
Au pire.
Bonjour Hélène.
Elle a des jolis yeux tout tendres, mais on ne voit pas sa tête, son visage, sa bouche et tout.
Parce qu'on a un masque.
Elle est très cruelle.
C'est pas constitutif d'Hélène.
Pas du tout, je ne suis pas cruelle. Je suis juste là, gentelée, pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Bon, vous ne m'avez pas facilité la tâche.
Ah oui.
Eh oui, enquête difficile, puisque un pacte a été fait entre vous et vos proches, surtout votre compagne, pour ne jamais parler de vous, mais j'ai pu m'immiscer, enquête quand même, vous le savez Philippe, je suis partout.
Je suis partout, je ne sais pas si c'est le bon titre à donner maintenant, mais...
Alors, Jean Telet, commençons par quelque chose qui va vous mettre en joie.
Formidable, l'intro de Pink in Black.
C'est
ce qu'il y a de plus beau dans toute la musique de rock.
Vous adorez ça, Rolling Stones, évidemment, et vous aimez donc particulièrement l'intro. Mais maintenant que le rock est lancé, on peut y aller. Jean Telet, vous êtes efficace. Vous ne prenez jamais de petit déjeuner, donc vous déjeunez à 11h30, toujours à la même table, dans un célèbre restaurant du 3e arrondissement à Paris. Je ne dirai pas le nom pour éviter tout dérangement.
L'émeute même.
L'émeute, évidemment. Et pourtant, au restaurant, vous savez vous faire remarquer comme à la Closerie des Lilas. Bon, ce nom, on peut le dire, parce que vous y allez tout le temps. Vous aimez conter les histoires, les gens vous écoutent, faire des petites blagues au serveur, comme répondre à la question « Tout s'est bien passé ?» Ceci, oui, à part le service, franchement, tout était bien.
Exactement, ouais. Et je dis aussi une phrase que disait Baudelaire, parce que mes copains me disent « Mais t'as un côté Baudelaire. » Baudelaire, quand on apportait de l'eau sur la table, une carafe d'eau, il disait « Madame, veuillez repartir avec ça. La vue de l'eau m'est désagréable. » Et maintenant, à chaque fois qu'on m'apporte de l'eau, je dis ça aussi.
Vous pouvez également vous lever de la table, voir un bébé dans son berceau et dire aux parents « C'est le vôtre, mais qu'est-ce qu'il est moche
oh !» Voilà. Et ça, c'est aussi Baudelaire qui, quand il croisait une mère dans la rue avec un petit enfant, il disait « Il est à vous, cet enfant, madame ?» Et la mère, toute fière, elle dit « Mais oui, monsieur, grand Dieu, il est horrible. »
Non mais attendez, Baudelaire, c'était un dingue, mais vous avez une cible sociale. Comment ça se passe au restaurant? Les gens vous reconnaissent? Ils disent quoi?
Ils se rendent compte que c'est tellement énorme, parce que je dis que c'est forcément une blague, que c'est pas
du tout... Oui, ça marche, le second degré marche. Ouais. Alors restons dans cette thématique restaurant, Gentelet. Vous pourriez en ouvrir un. Quand vous invitez quelqu'un à dîner, vous vous y mettez la veille, vous voulez que tout soit parfait. D'ailleurs, chez vous, c'est parfait. Il y a très peu de choses, vous ne gardez rien. Quand on vous offre un cadeau, vous ne le gardez pas forcément. Vous détestez les bibliothèques, les livres. En revanche, vous réfléchissez beaucoup à vos tenues. Oui, vous aimez être chic. Côté nourriture, vous adorez les œufs brouillés avec beaucoup de bacon, le dessert au chocolat à la pistache. Pas besoin d'éliminer tout cela puisque vous détestez le sport, encore plus la baignade. Si ça arrive, il faut une combinaison car vous détestez l'eau froide. Mais surtout...
Tout ça est vrai ?
Ouais, c'est vrai. Et puis j'habite aussi en Bretagne, en plein été, l'eau est à 17. Et alors on me dit, alors j'hésite énormément à y aller, on me dit faut pas réfléchir. Et je dis, mais moi je suis un intellectuel, donc je réfléchis,
voilà.
et finalement je prends ma décision, je vais pas aller me baigner en fait.
Surtout vous cuisinez le homard, quand vous êtes donc en Bretagne, vous faites une sauce d'ailleurs vous-même en récupérant le corail. Vous aimez vous rendre au marché et acheter toutes sortes de pommes pour faire votre compote. Oui, vous êtes un peu spécialiste de ça, apparemment. Ouais. Alors, ça nous ramène en enfance, et votre enfance, on va y aller, en classe primaire à Arcueil avec un certain Jean-Paul Gaultier et l'éditeur Bernard Fixot.
Dans la même classe, les trois ?
Non, Bernard Fixot est plus âgé que nous deux, mais on était dans la même classe avec Jean-Paul Gaultier. Je crois même qu'on était à la maternelle ensemble.
Et oui, et vous êtes allés ensemble récemment voir votre institutrice, pardon, aujourd'hui âgée de 95 ans. Vous lui avez toujours envoyé vos livres et elle vous a fait une petite critique. C'est pas mal, mais tu mets quand même beaucoup de gros mots.
Mais oui, puis après elle me dit, mais tu comprends, c'est très embêtant parce que je voudrais pas que les gens se disent, ah c'est comme ça qu'elle lui a appris à parler. et à chaque fois je disais, pardon madame Tap, je fais attention.
J'ai pas pensé à ça.
Et il s'en est passé des choses à l'école, comme ce jour où Jean-Paul Gaultier a été puni, il aimait faire le clown. L'instituteur lui a demandé de porter une pancarte dans le dos avec cette inscription, je ne perturberai plus mes camarades. Il devait donc traverser la classe comme ça et vous avez déclaré, nous avons alors assisté au premier défilé.
C'est pas tout
de Gaultier.
À fait ça. Pendant le cours, il avait dessiné une danseuse de Folies Bergères avec des plumes d'autruche et tout. Et l'institutrice, Madame Mouminou, lui a accroché ça dans le dos et l'a fait passer le long des classes dans le couloir. Oui. Et donc, je dis effectivement que j'ai assisté à
ce
premier défilé.
Il a défilé donc dans la classe.
Mode,
donc, ce n'était pas écrit, je ne perturberai plus mes camarades, il y avait donc le dessin qu'il avait fait. Mais donc, il a défilé dans la classe. Gentelet, vous avez toujours été solitaire, débrouillard, livré un peu à vous-même. Et surtout, pas très physionomiste. Vous avez été capable, par exemple, de rencontrer votre père dans la rue et vous ne l'avez pas reconnu.
Mais oui. Mais oui, c'était au début où je travaillais à l'assiette anglaise et beaucoup de gens me disaient bonjour dans la rue. Et moi, systématiquement, je disais bonjour. Et un jour, je croise mon père qui me dit bonjour. Et puis, je lui fais bonjour. Et puis, tout d'un coup, je m'arrête. Et puis il me dit, mais tu m'as... Je lui dis, oh, excuse-moi, je ne t'avais pas reconnu. Et il m'a répondu cette phrase historique, il m'a dit, si j'avais su, j'aurais fait pareil à ta naissance.
Oui, exactement, Gentelet.
Wow.
Pas mal.
Alors Gentelet, vous avez déclaré que vous étiez un inspirateur à dingue. Le professeur Choron disait, quand Telet arrive dans une ville, les fous sortent.
C'est
alors
vrai.
On a besoin de folie. Et c'est ce pacte que nous voulons.
Merci beaucoup, Hélène. Réaction, Jean ?
Je vous en prie.
Ouais, c'était terrible.
J'ai drôlement renseigné. Je ne sais pas comment vous vous débrouillez. Mais
personne ne sait comment elle fait. C'est
du boulot.
Ah bah oui.
Et sur cette musique de Painted Black, on embrasse Madame Mouminou, qui est l'institutrice. Dans un instant, notre première indispensable, c'est Nicolas Carreau, qui va nous faire découvrir un livre sur un inventeur devenu devenu Serial Killer.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
On parle de littérature, on parle de poésie avec Jean Tellet, Crénon, Baudelaire, c'est son dernier livre qui vient de sortir. On parlait de littérature aussi avec Nicolas Caro qui est dans ce studio. Tout à l'heure, on entendait Philippe Gueluc dire qu'il trouvait, qu'il a appris grâce à vous que Baudelaire était un type absolument détestable. Et alors dans votre livre qui est très très particulier, vous publiez les documents, par exemple vous publiez les notes de correction de ce qu'on appelle les bons à tirer. Un bon à tirer, c'est l'auteur valide la page telle qu'elle va être imprimée pour tout le monde. Et là, on tombe des nues, parce qu'il y a les documents que vous publiez, c'est tout juste s'il n'insulte pas les gens qui bossent pour lui.
Il était odieux, et les deux compositeurs qui recevaient les corrections de Baudelaire étaient à Alençon, dans une imprimerie, et au bout d'un moment, il ne voulait plus travailler que 2 heures par jour sur les Fleurs du Mal, tellement il était infect. Il les emmerdait pour des détails et tout, puis il les engueulait. Par exemple, à un moment, il trouvait qu'il y avait... son éditeur dit, bon, alors sur cette page... Là, vous avez entouré le petit F. Qu'est-ce qu'il a, ce petit F? Il dit, il est un petit peu trop penché. Il dit, oui, mais c'est un F italique. C'est normal qu'il soit penché. Oui, mais il est un petit peu trop penché. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le redresser un petit peu. Alors, il se demandait, mais c'est possible? Oui, en limant un bord de la lamelle, en mettant une petite cale, on doit pouvoir y arriver. Et il les a rendus fous. On connaît leur prénom, Denis et Lucienne, je crois. Et il tombait en larmes en corrigeant le livre de Baudelaire. Il a cassé les couilles à tout le monde.
Il y a un truc génial, par exemple, il y a une virgule. Ça arrive des erreurs. Ouais. Et là, au lieu de dire, quand on fait une correction, on retire la virgule. Et là, il rajoute Baudelaire, il met... Enlevez donc cette maudite virgule. Voilà. T'es là, t'as rien demandé à personne, tu te fais engueuler.
Et quelques lignes plus tard, on voit un autre truc. Je tiens absolument à cette virgule. Mais il renvoyait la même page 27 fois. C'était un enfer.
Vous avez vu la transition magnifique. Tout trouvé, Nicolas Caro, ce matin, vous sortez un peu de la rentrée littéraire et vous allez nous parler d'un livre d'histoire.
Oui, mais qui se lit comme un roman. Et d'ailleurs, je me suis dit que le personnage devait bien plaire à Jean Tellet. Il s'agit de Landru, Henri Désiré Landru, accusé du meurtre de 11 femmes condamnées à mort, exécutées en 1922. Le livre est signé Bruno Fulini aux éditions du Rocher. Il s'appelle Landru, l'élégance assassine. L'élégance parce que, bon, nous, on connaît Landru par les photos du procès. Chauve avec sa barbe, drôle de bonhomme avec une tête un peu bizarre, mais il y a des photos dans ce livre. Et alors, c'est pas très radiophonique, mais il y a une photo de Landru plus jeune, hyper beau gosse, style belle époque, avec le nœud papillon, le col cassé et tout. C'est très impressionnant.
Donc, lire que ce livre raconte pas seulement le procès et les crimes,
exactement. Et saviez-vous par exemple que Landru, bien avant les crimes, était un inventeur? Il a notamment conçu les plans d'une des premières mobilettes,
non.
Bruno Fulini.
Landru en particulier. Jeune homme intelligent comprend que dans les villes, on va avoir besoin de moyens de transport rapides, légers, maniables. Et donc, il a l'idée d'un vélo à moteur. En 1899, il le dessine, il fabrique un prototype et même il dépose un brevet. J'ai retrouvé ce brevet dans les archives de l'Institut National de la Propriété Industrielle, l'INPI.
Deux mots qui n'existaient pas, il est donc passé d'inventeur de mobilettes à serial killer.
Oui, mais entre-temps, il était un simple escroc, il s'attaquait aux veuves, aux grandes bourgeoises qui avaient un petit pécule à investir, et il les délestait. Et puis, une chose en entraînant une autre, il est devenu un tueur en série. Serial killer, nous, on connaît bien cette expression aujourd'hui, mais à l'époque, on ne connaissait pas du tout le concept. La police elle-même n'envisageait même pas cette idée. Celui qui a eu cette intuition d'un même assassin pour plusieurs victimes sans lien apparent, c'est Jean Belin, commissaire divisionnaire à la retraite. Il a fait partie des brigades du Tigre, de Clémenceau, tout ça. On lui doit l'arrestation de Landru, mais on l'a complètement oublié aujourd'hui. Eh bien, l'historien Bruno Fulini rend à César ce qui est à César et nous raconte l'histoire de Landru du point de vue de Jean Belin à la première personne. C'est pour ça que je vous disais que ça se lit comme un roman.
Et moi, je ne connais pas grand-chose de Landru, mais ce que je sais, c'est que le procès de Landru, c'était un vrai spectacle.
Ah, complètement, c'était de la folie. Landru, qui a toujours été en quête de reconnaissance, qui est devenu une vraie vedette pendant son procès.
On assiste chaque matin à Paris au départ de ce qu'on appelle le train Landru. Le train Landru, c'est le train pour Versailles où se précipitent les Parisiens, y compris les Parisiens de la bonne société, les journalistes, des personnalités comme Maurice Chevalier, Mistinguette, qui veulent absolument assister au procès. Landru se comporte en star, il signe des photographies. il y a des photographes de presse, hein, et bien certaines photographies lui sont apportées, il met un petit mot dessus.
Et pendant le procès, il signait des autographes.
Oui, c'était une star et une célébrité macabre, encore aujourd'hui. À la fin du livre, il y a certaines chansons qui lui ont été consacrées. Il y en a eu beaucoup, notamment, bien sûr, celle de Charles Trenet.
Landru, 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 vilain barbu, tu fais peur aux enfants, tu séduis les mamans.
C'est
pas drôle.
Ah non,
on se meurt. Merci beaucoup, Nicolas Caro.
Il y a des lettres d'amour aussi en prison. Ouais. Ouais. De femmes. Hein,
et son évidemment. Exécution est incroyable aussi. Il a des bons mots tout le temps.
Ouais, ouais.
C'est un personnage qui vous plaît, ça, Jean Tellet.
Ouais, ouais, ouais. Il est marrant. Ouais,
ouais. Ouais. Ça pourrait faire encore un livre après. C'est pas l'Everest, là.
Non, non, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de choses sur Landru. J'essaye de trouver des.
D'un mot, Jean Tellet, c'est vrai que vous ne lisez jamais de romans.
Non, 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 j'ai dû en lire une quarantaine dans ma vie, ce qui n'est pas beaucoup.
Pour quelle raison ?
Ben, parce que je passe mes journées à en écrire, alors que quand je rentre, je me dis, oh, tiens, pour me détendre, je vais me mettre à lire un roman. Et en plus, j'ai le malheur de bien m'en souvenir. Et je veux pas je crains toujours de plus me passionner pour un écrivain que pour mes livres. Et, donc, et puis en n'en lisant pas, eh ben, je risque pas d'être influencé. Quoi.
C'est bien chauffé ici ?
C'est très bien. C'est
voilà,
très
c'était
bien.
Une question de Landru. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Vous restez avec nous dans un instant.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Jean Tellet, écrivain, auteur, crénom Baudelaire. Ça vient de sortir chez Mialet Barreau. Jean Tellet, vous êtes fan de séries ?
Pas du tout. J'en ai jamais vu de ma vie.
Vous n'avez jamais vu une série ?
J'entends des gens parler d'un tas de trucs, je ne sais
ça
pas de quoi.
Vous connaissez très, le très principe mal, hein. Quand même.
Oui, oui. C'est comme des films qui se suivent. Et ouais. Ça peut durer des années, d'après ce que j'ai compris. Il y a saison 1, saison 28 et tout ça. Ouais.
Voilà. Ah. Vous avez vu, je vous ai bien préparé le terrain.
Je vais repartir.
Et Baroque, on va parler de série.
Oui.
Vous êtes de retour avec une série britannique, vous m'avez dit une pépite. De quoi s'agit-il ?
En fait, j'ai cherché une série qui, à mon sens, pouvait coller à votre personnalité, Jean Tellet, quelque chose qui puisse vous plaire. Alors, j'ai bien fait d'ailleurs, parce que c'est des épisodes très courts et qu'il n'y a que deux saisons. Ça fait 30 minutes les épisodes. Alors, je cherchais donc une fiction avec de l'humour, de l'absurde, une forme d'esthétisme, quelque chose d'un peu chic. Et puis, en hommage à l'assiette anglaise, j'ai pensé qu'une série britannique capable de réunir tous ces ingrédients, ce serait le must, comme on dit. Eh bien, figurez-vous que ça existe et on remercie Arte, ou plutôt le site arte.tv, qui nous offre gratuitement la série inédite en France, Inside Number 9, 6 épisodes donc de 30 minutes chacun, des petites pépites d'humour noir, dont l'épisode 2.
Super, ça démarre jamais, il y a que de la musique.
Il y a que de la musique, et oui. Quitte à faire un truc dans l'absurde, donc je vous fasse aussi une chronique absurde. Et oui, 30 minutes sans parole pour un épisode qui est à la croisée de The Party, de Peter Sellers, de Jacques Tati et des Monty Python. Il y a quand même une histoire, c'est celle d'un cambriolage dans une magnifique villa qui va mal tourner. Il faut dire que les deux voleurs sont des pieds nickelés et qui doivent emporter une toile blanche. Alors déjà, on sent qu'ils ne comprennent pas pourquoi cette toile blanche vaut des millions. Et la présence du propriétaire et de sa femme vont évidemment chambouler leur plan. Et d'ailleurs, je vous promets des cascades comme vous n'en avez jamais vu.
Mais attendez, je vous dis ça pour Jean Tellet, il y a quand même bien un épisode avec des dialogues.
Ah oui, alors tous les épisodes, il y a des dialogues, donc sauf le 2 dont je viens de vous parler. Mais ils ont tous des dialogues. Le 4e, par exemple, qui est tout aussi dingue. Alors je vous raconte l'histoire. Une association qui organise la venue d'un chanteur célèbre chez une petite fille malade, Tasmine, pour lui fêter son anniversaire. Vous savez, on connaît ces associations caritatives. Bon, la venue de la star, on va être clair, elle fait plus plaisir aux parents qu'à la petite fille qui s'en fout royalement. Sauf si la vedette accepte de lui gonfler un ballon. Ce que le chanteur accepte.
Déjà, il va se marrer.
Le chanteur accepte, mais il meurt parce qu'il souffle trop dans le ballon. Et donc, imaginez le dernier souffle de cette star consigné dans ce ballon. Résultat, le père, le garde du corps et la responsable de l'association, ils voient une opportunité de se faire de l'argent en vendant le fameux ballon aux enchères. Mais avant que tout ça arrive, au détour d'une conversation, la mère de famille, elle demande quand même à la dame de l'association quel est le plus beau vœu qu'elle a accompli pour un enfant.
Une petite fille avait quelque chose comme la maladie de Hodgkin, mais ce n'est pas mon rayon. Et elle rêvait de devenir factrice tout simplement, pas pour la reine ou Pierre le facteur. Elle voulait juste être factrice. Nigel m'a refilé cette affaire sans intérêt pour la presse. Mais quand elle a glissé la lettre dans la boîte, elle a eu un petit rire. Comme si ça comptait plus que tout au monde. Et elle est tombée raide morte. La presse a adoré. Dans ton cul, Nigel.
Alors, wow. Humour noir garanti, porté par d'excellents comédiens et une série un peu baroque mais hilarante, sauf si évidemment vous n'aimez pas l'humour noir.
C'est un peu écrit comme du Baudelaire. Pourquoi ce titre Inside Number 9?
Alors pardon, mais c'est très con, il n'y a pas d'autre expression. Voilà. Parce que là aussi c'est un peu absurde. En fait, à chaque épisode, il y a un moment donné où il y a un chiffre 9 qui apparaît sur une porte par exemple, mais il ne faut pas chercher d'explication plus intellectuelle que ça. Les 6 épisodes sont à déguster sur arte.tv. Je vous recommande notamment le premier. C'est une partie de cache-cache entre adultes dans une maison. Enfin, plutôt dans un placard d'une maison. Et tout ça se termine très mal. Mais je vous en dis pas plus.
Ils se cachent tous dans le placard?
Oui.
Bah donc on sait où ils sont cachés.
Bah vous allez voir.
Mais il faut bien qu'il y ait du placard.
Voilà.
Derrière,
il faut bien
qu'il y ait
une chute.
Derrière une chemise.
Voilà. Et il faut qu'il y ait une chute.
Il y en a un qui suit ici.
Jean Tenet, Eva Rock a réussi à vous intéresser.
Mais alors,
vous êtes capable d'aller taper arte.tv et de regarder?
Je suis pas certain de le faire en ce moment, mais bon.
Merci beaucoup, Eva Rock. À demain. Jean, vous restez avec nous. Ouais. À tout de suite. Culture Média continue.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Bondel.
Avec Jean Tellet, l'auteur de Crénom Baudelaire. Ça vient de sortir chez Mialet Barreau. C'est une biographie, mais c'est aussi un roman de vous.
Oui,
il y a votre patte, il y a la patte Tellet. Je ne savais pas le comportement qu'avait Baudelaire avec les femmes. Rapport très complexe. Il l'avait d'abord, il a connu un humour inextinguible pour sa maman. Il perd son papa à 5 ans. Et à la suite de quoi, la maman se remarie. Je ne sais pas si tout vient de là, mais quand même, c'est complètement dingue. Il aimait choquer. Il faut dire qui était la compagne qui s'était choisie. Elle s'appelait Jeanne Duval. Elle avait une particularité. Elle était noire. Mais ce n'était pas de la part de Baudelaire une marque d'ouverture, mais plutôt une volonté de choquer.
Oui, oui. Mais il voulait toujours étonner, choquer, provoquer. Et le fait de lui, qui mesurait 1m65, de vivre avec une grande femme métisse ou noire d'1m84, à une époque où il y avait encore l'esclavage en France. Et il adorait l'emmener, par exemple, à la Tour d'Argent et tout, complètement bariolée, recouverte de bijoux pour que tout le monde soit choqué par ça. De toute façon, il voulait toujours étonner. Alors les gens disaient lui, Baudelaire, le soir, doit se coucher sous son lit pour s'étonner lui-même. Il voulait toujours être en provoque.
Alors c'était aussi un grand séducteur. Il était, dites-vous, l'amant d'une femme qui était considérée à l'époque comme la plus belle de Paris. Sauf que le lendemain de leur relation, il rédige une lettre de rupture.
Ah ben il était formidable. C'est la femme en question s'appelait Apollonie Sabatier. Et c'était donc effectivement la plus belle femme de Paris. Tous les grands artistes voulaient se retrouver être son amant. Le seul qu'elle a accepté, c'est Baudelaire. Et le lendemain, il lui a écrit une lettre de rupture où il lui dit en gros, je vous prenais pour une déesse et en fait, vous n'êtes qu'une femme. Ce qui est d'une muflerie. Et c'était ça. Mais Baudelaire n'aimait pas les femmes belles. Et il aimait les femmes laides ou bizarres. La première, celle qu'il a dépucelée, était une petite prostituée juive qui louchait, qu'on appelait Sarah la Louchette. Et il l'aimait parce qu'elle était horrible et immonde. D'ailleurs, il a écrit 2 poèmes sur elle, dont le premier commence par « Une nuit que j'étais près d'une affreuse juive » et il disait d'elle qu'elle était une ficelle avec des nœuds. Et il disait aussi qu'il l'aimait beaucoup parce qu'elle était très maigre et il disait les femmes maigres sont plus nues que les autres. C'est une drôle de phrase.
Alors ça va même au-delà de la muflerie puisqu'on a découvert, enfin moi j'ai découvert en vous lisant qu'il était très violent avec les femmes au point qu'il les battait, notamment quand il allait dans les bordels, à l'époque ça existait, les bordels. Et c'est une dimension qui avait été cachée du personnage, occultée. Et je veux savoir ce que vous pensez de la cancel culture, Jean Tellet. Vous savez ce qu'on appelle la cancel culture, la culture de la suppression. Le fait de supprimer quelqu'un des tablettes parce que sa vie privée n'est pas acceptable avec nos critères d'aujourd'hui. Par exemple, Gauguin et sa passion pour les filles très jeunes. Tout le monde ne peut pas s'acheter un tableau de Gauguin alors que tout le monde peut s'acheter un recueil de poèmes de Baudelaire. Il y a des gens qui vont vous dire qu'il faut arrêter de l'enseigner en classe.
Mais non, parce que ça n'a rien à voir, le bonhomme et le talent. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas être... être royal dans son art et forcément avec la morale et tout.
C'est justement ce qu'il y a de nouveau avec la cancel culture, elle pense l'inverse de vous.
Elle pense
que si quelqu'un ne se comporte pas bien dans sa vie, il doit être rayé des tablettes et de la culture.
Alors, donc du coup, on n'aurait que des artistes gentils, et les artistes gentils, la plupart du temps, n'ont pas fait les plus grands chefs-d'œuvre. Un mec comme Picasso, par exemple, on n'irait pas voir ses tableaux, parce que la vie de Picasso, c'est entouré de suicides et tout. C'était un monstre. Presque tous les plus grands artistes étaient des monstres.
Alors lui, c'était un monstre, Baudelaire. Il a continué toute sa vie dans le style, ce qu'on appelle maintenant, les psys appellent ça l'agression de l'entourage, même à la fin de sa vie. Anecdote, il est en Belgique. Qu'est-ce qu'il était allé faire en Belgique ?
Il était déjà parti pour fuir les créanciers et tout ça en France. Et il voulait faire des conférences à la maison du roi. Et ça s'est très très mal passé. Et il s'est fâché contre les Belges.
Je vais raconter comment il s'est fâché. Il a attendu dans un salon très chic. Il a une grande réputation qui lui arrive de France. Il y a des intellectuels qui sont là, il y a des banquiers. Voici ce qu'il leur balance. Le visage belge est informe, blafard ou vineux. Il a une bizarre construction des mâchoires et une stupidité menaçante. La démarche des Belges est folle et lourde. Ils se déplacent en regardant derrière eux, ils se cognent sans cesse. Leurs femmes sont des rubins sans seins doux qui vont les pieds en dedans. Le Belge doit être classé entre le singe et le mollusque. Fin de citation, tu m'étonnes que ça se passe mal après.
Ah bah ouais, non mais il a écrit que des conneries sur les Belges. Ouais.
Mais c'était quoi son plaisir ? C'était l'autodestruction ?
C'était choqué, c'était... Il disait par exemple une phrase que j'aime bien, c'est « Avec mon talent désagréable, je voudrais mettre l'humanité tout entière contre moi. Je vois là une jouissance qui me consolerait de tout. » Et lui qui détestait tout le monde, il se détestait lui aussi. Il disait « Mécontent de tous » et mécontent de moi. Et une phrase formidable, si j'avais un fils qui me ressemble, je le tuerais par horreur de moi-même.
Et il était heureux du procès des fleurs du mal. Il était heureux de se faire traîner dans la boue, de se faire traiter de tous les noms.
Mais il était surtout très, très surpris quand son grand copain Asselineau, à la sortie du tribunal, lui dit, voyant qu'il faisait la tronche, lui dit mais tu t'attendais quand même pas à être acquitté. Et il dit acquitté seulement, mais je m'attendais à ce que le procureur m'invite à dîner. Et d'ailleurs, sur 100 poèmes, il y en a eu 13 d'attaqués en justice. C'est formidable, ça c'est la classe.
Vous voulez dire que c'est beaucoup ou que c'est peu ? C'est énorme.
Oui,
mais c'était une autre époque.
Et dont 6 qui ont été interdits de lecture pendant 92 ans. Un tribunal qui a levé l'interdiction, c'était en 1949.
Et puis juste un mot de son éditeur, on ne va pas raconter tout le procès ici, son éditeur Poulet Malassis, j'ai appris qu'il lui avait donné un surnom.
Coco mal perché.
Voilà.
Il faisait la gueule parce que son premier éditeur, quand il avait écrit les comptes rendus pour l'expo annuelle au Louvre, s'appelait Jules Labitte. Son deuxième éditeur s'appelle Poulet Malassis. Les fleurs du mal sont distribuées par la librairie religieuse Connard et compagnie. Et son procureur à son procès s'appelait Pinard. Il disait « Je suis maudit ».
Jean Tollet, c'est votre nom. Crénom Baudelaire, c'est le titre de ce livre. Merci d'avoir été avec nous. Culture Média revient demain à 9h. On sera avec Bernard Lavillardière pour un nouveau numéro d'enquête exclusive consacrée à l'Amérique au bord du chaos, c'est le titre. Finale très originale pour la saison 2 de Petit meurtre entre amis d'Agatha Christie. Non, Petit meurtre d'Agatha Christie, c'est la saison 2, mais ça fait 17 ans que ça existe. On sera avec l'actrice Elodie Frank et la productrice Sophie Reville. Et puis enfin, le dessinateur Zep, le papa Titeuf, pour la nouvelle édition du guide du zizi sexuel. Juste après le flash, Anne Romanoff et sa bande. Ça fait du bien, je vous dis à demain.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.